Pierrot, chien de Belgique, chapitre 3. Ce ne fut pas longtemps après la mort du vieux Lup qu'une chose terrible arriva. Père Jean rentra un après-midi porteur d'une feuille de papier jaune que lui, Mère Marie et grand-père examinèrent très gravement pendant longtemps. Les enfants furent mis au lit de bonne heure, mais ils purent entendre parler leurs parents jusque très tard dans la soirée. Ils ne pouvaient s'imaginer ce que cela signifiait. Mais Henri, se réveillant incidemment pendant la nuit, entendit pleurer Mère Marie, ce qui était étrange, car habituellement elle était si joyeuse. Peut-être pensait-elle à Lup. À Bruxelles, il semblait y avoir plus d'agitation que d'habitude, et chacun à peu près achetait des journaux aux jolies filles les marchandes du coin. Tous étaient très sérieux, et certains paraissaient émus. Il y avait aussi beaucoup de soldats marchant dans les rues, ce qui constituait un grand spectacle pour Henri. Ce fut par les marchandes de journaux qu'Henri, à la fin, apprit ce qui se passait. Il y avait la guerre, ce qui, naturellement, expliquait la présence des soldats. En les apercevant, le cœur d'Henri battait dans l'espoir qu'il verrait une bataille. Mais cependant lui aussi ressentait la peur. Sur le chemin de retour à la maison, il embarrassa sa mère de questions, mais elle était très laconique, et il ne sut pas grand-chose. À la fin, il apprit que Père Jean, qui avait jadis servi un terme dans l'armée, avait été appelé sous les drapeaux et avait été attaché à une compagnie de réserve. Chaque jour, il devait laisser la ferme et la métairie aux soins de grand-père et partir pour l'exercice. Il mettait alors un uniforme qui, bien que n'étant pas aussi gai que celui porté pour la société de musique, était d'aspect plus martial. Ceci rendait Henri très fier, mais laissait Mère Marie indifférente. Une fois qu'Henri était resté à la maison pour aider grand-père, ils entendirent un grand bruit de pas qui résonnait et sortirent pour voir ce qui se passait. Sur la route, un nuage de poussière apparut au travers duquel on voyait les scintillements de l'acier au soleil, ainsi que les jambes d'un grand nombre d'hommes se mouvant avec ensemble. Bientôt les soldats arrivèrent par centaines et centaines, continuant leur marche en passant devant la petite ferme Métairie et se dirigeant vers Bruxelles. Henri avait envie de les acclamer, mais grand-père paraissait si grave qu'il s'en abstint. Ensemble, ils se tenaient au bord de la route, vieillards et petits garçons, immobiles et très droits, regardaient anxieusement passer la rangée des officiers. C'était vraiment impressionnant. Henri continua d'aller fréquemment à la ville avec Mère Marie, non parce que l'on craignait que Pierrot se conduisît mal, car il avait bien profité de ses leçons, mais parce que Mère Marie, de plus en plus, désirait l'avoir auprès d'elle. Partout, il entendait parler de la Grande Guerre, et il apprit à ouvrir l'oreille. Les Allemands étaient entrés en Belgique, et l'on se battait à Liège, quoiqu'Henri ne sût pas du tout où Liège pouvait bien se trouver. Chacun était fier des braves gens qui soutenaient les forts, et Henri put concevoir la chose. Il était fier aussi, spécialement parce que son père était un soldat. Quoiqu'il ne comprît pas pourquoi Père Jean ne s'était pas battu et n'avait pas gagné de bataille. Des blessés étaient de temps en temps amenés à Bruxelles, et Mère Marie était très troublée à leur vue. Henri avait grande envie de les questionner sur la façon de se battre, mais n'en eut pas l'occasion. Vint alors un jour la terrible nouvelle que Liège était tombé, ce qui mit Bruxelles dans un état d'agitation fiévreuse. Quelques-uns des clients de Mère Marie firent leurs préparatifs et partirent hâtivement pour Anvers, Ostende ou bien l'Angleterre, de façon que la tournée que devait faire Pierrot devint plus restreinte. Il semblait y avoir une crainte que les Allemands apparussent d'un moment à l'autre. « Les Français !» criait le peuple au désespoir. « Où sont-ils ? » Quand Mère Marie et Henri arrivèrent à la maison ce jour-là, Père Jean, en uniforme, attendait, très énervé, avec son fusil et son équipement prêt. « Nous avons été requis, » dit-il. « Nous devons empêcher les Allemands d'entrer dans Bruxelles. » Rien de plus ne fut dit. Ce n'était pas le moment de parler beaucoup. Père Jean les embrassa tous, même vieux grand-père, dit au revoir et partit en hâte par la route. Mère Marie était très brave et ne pleura pas tant qu'il ne fut parti. Alors elle pressa Henri et petite Lisa contre elle et sanglota amèrement, ce qui fit pleurer aussi les enfants. Pierrot, qui n'avait pas été dételé, vint en tirant sa charrette et fourra son museau mouillé parmi eux, sous forme de sympathie. Mais grand-père se trouvait seul près de la route, regardant vers Bruxelles, les épaules hautes et les lèvres closes et serrées, en lignes minces. Alors, rapidement, se succédèrent de terribles événements. Les Belges ne purent contenir les Allemands, et Père Jean et les autres furent obligés de se replier sur Anvers. Les agents de police de Bruxelles conseillèrent à Mère Marie de ne plus venir en ville, de sorte qu'on dit au revoir aux jolies marchandes de journaux et aux autres amis, et on essaya d'expliquer le motif à Pierrot, qui se plaignit parce qu'on ne l'attelait pas le lendemain à sa charrette. Voilà pourquoi Mère Marie et son fils n'étaient pas en ville quand vint la nouvelle que Louvain avait été détruit et que beaucoup de gens paisibles, qui n'étaient pas du tout des soldats, avaient été fusillés. Mais les nouvelles ne mirent pas longtemps à atteindre la métairie, et quand elle les apprit, Mère Marie devint très pâle. Quelques-uns de leurs voisins emballaient ce qui leur appartenait et s'en allaient, tandis que grand-père et Mère Marie, ne sachant où aller, restèrent à la maison. Trois soldats belges vinrent et emmenèrent Médard et toutes les vaches, à l'exception d'une génisse tachetée. Ils donnèrent un reçu à Mère Marie, disant qu'on la paierait un jour. Ils savaient tous que les Allemands seraient bientôt là. Alors cela n'avait pas beaucoup d'importance, et avec une seule vache à traire, et sans devoir faire de voyage à la ville, il y eut moins d'ouvrage. Grand-père, avec l'aide de Mère Marie, d'Henri et de Pierrot, commença à moissonner le petit champ, comme il put. Le 20 août, un voisin effrayé rapporta que le roi était parti pour Anvers et que Bruxelles était aux mains des Allemands. « Pourquoi ne pouvons-nous pas aller à Anvers, maman ?» demanda Henri. « Et être avec le roi et Père Jean et les soldats ?» Mais Mère Marie hocha seulement la tête. Elle ne put rien dire. De tout cela, Pierrot ne comprenait que peu de choses. Il se rendit compte seulement de ce que le gai tintamarre de la charrette allait, derrière lui, lui manquait. L'ombrage des marronniers de l'avenue Louise, tous les bruits intéressants et les odeurs de la ville, ainsi que le doux rire des petites marchandes de journaux. Il était privé du son de la voix profonde et du contact des mains fortes et bonnes de Père Jean. Mais lui aussi allait apprendre, bientôt, ce qu'était la guerre. Quelques années auparavant, un régiment de carabiniers avait commencé à employer des chiens pour traîner de petites charrettes de munitions et des mitrailleuses. Ce sont les soldats qui portent des uniformes vert foncé, avec d'étroits lacets et des fourragères jaunes, des paletots à grands collets en hiver et de singuliers shakos à fond haut avec une mentonnière et des plumes de coq brillantes vert foncé sortant de rosettes vertes et jaunes. Ceci est nécessairement la coiffure de parade. En action, ils portent un petit bonnet rond ou un shako sans plumes, recouvert d'une toile cirée noire. L'expérience qu'on fit avec les chiens fut reconnue un succès, et maintenant qu'on avait en perspective une grande bataille et beaucoup de marches à travers les campagnes inégales, l'armée décida d'étendre cette branche du service et commença à réquisitionner des centaines de chiens de trait vigoureux et bien dressés. Tout juste avant que le premier Uhlan apparût à la ferme des Van Huyck, un carabinier belge vint précipitamment un matin et emmena Pierrot. Les enfants s'accrochèrent à son rude cou et pleurèrent jusqu'à ce que Mère Marie les entraîna dans la maison. Le chien résista également, mais comprit bientôt qu'il devait marcher, et il se mit à trotter sur la route, à côté du soldat. Grand-père, se tenant droit et calme, porta la main au front quand le soldat et Pierrot s'en allèrent. La dernière chose que vit Pierrot en regardant derrière lui, au tournant de la route, était l'austère et grave silhouette du vieillard se tenant devant la petite ferme. Et la dernière chose qu'il entendit était les cris sauvages de petite Lisa qui ne pouvait comprendre et refusait qu'on la consolât. Pierrot et le carabinier furent bientôt rejoints par d'autres soldats avec d'autres chiens, et tous ils se dépêchaient ensemble le long des routes. Ils firent un long voyage de plus de 40 kilomètres, formant un grand circuit autour de Bruxelles, en passant au sud, par Anderlecht. Quand ils arrivèrent enfin à Malines, Pierrot fut placé dans un enclos avec beaucoup d'autres chiens. Ils n'étaient pas habitués à se trouver ensemble de cette façon, et deux hommes devaient constamment se tenir parmi eux, munis de cravaches, afin de les empêcher de se battre. Mais Pierrot, qui était toujours bienveillant, trouva ce contact avec ses congénères plutôt amusant, quoique tout cela le rendait très perplexe, et il aurait voulu rentrer à la maison. Le soir, les chiens furent nourris, et on leur donna de la paille pour se coucher. Mais aucun d'eux ne dormit bien dans ce nouvel entourage, et ils fatiguèrent et irritèrent leurs gardiens avant l'aube. Dès le point du jour, les soldats vinrent, et emmenèrent les chiens deux par deux. Finalement, un grand carabinier barbu, nommé Conrad Hortz, s'approcha de Pierrot. Il lui caressa la tête, lui ouvrit la gueule pour lui examiner les dents, et parcourut de la main ses pattes et son dos poilu, comme Père Jean avait l'habitude de le faire. Et Pierrot l'aima. Lui aussi parut aimer Pierrot, car il sourit et dit « Un bon garçon !» Alors il choisit un grand et robuste chien à l'air hargneux, nommé Jeff, ainsi que Pierrot l'apprit plus tard. Et il conduisit les deux chiens en laisse vers un terrain vague où il y avait des tentes, des charrettes, des piles de boîtes et de paquets, et où régnait beaucoup d'animation. Ils arrivèrent à une étrange petite charrette, telle que Pierrot n'en avait jamais vue auparavant. C'était une mitrailleuse à tir rapide, montée sur deux roues de bicyclette. En place de brancard, il y avait une simple fourche avec deux colliers attachés au bout, un de chaque côté. Conrad enfila un de ceux-ci au cou de Pierrot et l'autre à celui de Jeff, puis fixa les traits. Alors il les fit avancer pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'il parût satisfait. La mitrailleuse et le véhicule pesaient ensemble environ 90 kilos, ce qui était en pays plat une charge très légère pour deux chiens vigoureux. D'autres chiens furent attelés à des véhicules semblables. Quelques-uns d'entre eux seulement avaient des caisses de munitions au lieu du petit canon. Ensuite, Conrad attacha les chiens et s'en fut à la recherche des soldats qui les avaient amenés afin de connaître leur nom, ce qui était d'après lui une précaution très sage. Pendant un jour ou deux, Conrad Hortz employa beaucoup de temps pour dresser Jeff et Pierrot, les faisant traverser l'eau et passer par toute espèce de terrain accidenté afin qu'ils soient prêts à tout. Dans l'armée belge, les commandements sont donnés presque exclusivement en français, ce qui semblait étrange à Pierrot, car grand-père et père Jean l'avaient dressé en lui parlant flamand. Ainsi, il eut à apprendre ce que voulait dire tel commandement. « Halte, marche et va vite !» Mais Jeff et lui apprirent bientôt à obéir à Conrad, même quand il ne tenait pas les rênes. Tirant le petit canon avec obstination par-dessus les ruisseaux, montant et descendant des collines escarpées, franchissant vigoureusement avec lui des buissons où ni chevaux ni automobiles n'auraient pu passer. les chiens reconnurent bientôt mutuellement leur façon de tirer et apprirent à réserver leurs forces pour les endroits difficiles et à tirer convenablement ensemble. Et malgré le caractère ombrageux de Jeff, Pierrot découvrit en lui un compagnon honnête, toujours prêt à faire sa part de besogne, et il finit par l'aimer. Conrad paraissait très content de tous deux. Vint alors un matin où il y eut une grande animation dans le camp des carabiniers. Des hommes couraient partout et des officiers jetaient des commandements à haute voix. Conrad vint et attela vivement Pierrot et Jeff à leur canon et ils partirent, en courant sur la route, vers Bruxelles, avec quelques-uns des autres chiens et des canons. Quand ils eurent parcouru à peu près 1,5 km, les chiens furent dételés et attachés à des arbres, et les canons placés sur la route. Bientôt on entendit le galop de chevaux et des coups de fusil furent tirés, ce qui effraya les chiens, et ils tentèrent de rompre leur laisse et de se sauver. Mais ils furent encore bien plus effrayés quand leurs propres canons se mirent à parler. Un horrible bruit étourdissant se fit entendre, et quelques-uns des chiens s'accroupirent et rampèrent pour se cacher, tandis que d'autres sautaient et hurlaient. Des hommes vinrent et leur donnèrent des coups de pied, en leur ordonnant de se tenir tranquilles. Tous les soldats paraissaient pressés et excités. Pierrot tremblait violemment et souhaitait d'être à la maison avec grand-père et petite Lisa. Mais le massif Jeff prenait tout cela de façon très calme, ce qui rendit courage à Pierrot. Une compagnie d'infanterie belge arriva en courant. Puis les soldats se jetant les uns à plat au bord de la route, les autres se tenant debout derrière les arbres, ils commencèrent à tirer sur les hulans. Alors, après un moment, deux armées arrivèrent à toute vitesse, chargèrent vers le bas de la route, et le feu des mitrailleuses cessa. Un peu plus tard, l'ordre arriva pour les carabiniers de se replier, et les chiens furent de nouveau vivement harnachés. Certains durent être poussés en avant à coups de pied et à coups de poing, mais Pierrot et Jeff obéirent à Conrad Hortz, malgré leur frayeur. À côté de leur canon, un soldat était étendu, gémissant, et Pierrot le flaira curieusement. Il ne pouvait rien y comprendre du tout. Cela avait été seulement une petite escarmouche d'avant-poste, mais ce fut la première expérience qu'eut Pierrot de la guerre. Beaucoup de jours se suivirent, au cours desquels les mêmes choses se passèrent. Parfois, il y avait des escarmouches, parfois de fausses alertes. Mais les chiens ne savaient jamais quand ils allaient être appelés en action avec leurs petits canons. Nuit et jour, c'était continuellement la même chose, et il était heureux pour eux qu'ils eussent appris à saisir quand il survenait le moment propice pour se reposer et dormir. Les heures des repas devinrent très incertaines. C'était complètement différent du cours régulier de la vie d'un chien de charrette à Bruxelles. Graduellement, ils apprirent à concevoir ce qu'on attendait d'eux et y répondaient de bonne volonté. En fait, il y avait dans l'action quelque chose d'entraînant qui les gardait constamment anxieux et sur le qui-vive. Ils s'accoutumèrent à l'odeur de la poudre et au bruit du canon, et Pierrot ne tremblait plus du tout. En général, Conrad était bon, quoique habituellement pressé et un peu brutal, et il n'y avait plus jamais de douceur ni de caresse. Tout cela était très difficile à s'expliquer. Le camp fut déplacé 2 ou 3 fois, et finalement, les carabiniers se retirèrent vers le cercle des forts d'Anvers. Là, une fois de plus, Pierrot entendit les bruits et sentit les odeurs de la ville. Conrad attela ses chiens un jour à une charrette d'approvisionnement et les emmena à la ville. De nouveau, Pierrot trotta par des rues pavées entre de hautes constructions, et une fois son oreille fine entendit le son des charrettes à l'air roulant bruyamment sur le pavé. Cela lui fit ressentir fortement le mal du pays. À leur retour, ils durent attendre que fût passée une longue colonne de soldats en marche. Ceux-ci paraissaient fatigués et étaient couverts de poussière, et le bruit que faisaient leurs pieds battant la route parut étrange aux oreilles de Pierrot. Soudain, son œil fut attiré par une figure qu'il crut reconnaître. Serait-ce Père Jean? Peut-être venait-il pour l'emmener à la maison? Pierrot renifla. Mais dans le fort relent d'hommes de la troupe en marche, il ne reconnut aucune odeur qui lui fût familière. Il aboya de toutes ses forces. « Je suis ici, Père Jean, je suis ici !» Mais Conrad lui ordonna de se taire, tandis que le soldat, dans le rang, gardait les yeux fixés droit devant lui et continuait à marcher sans se retourner. Ainsi, Pierrot avait dû se tromper. Cela le rendit très malheureux, et il gémit tout bas, d'un ton légèrement sifflant, jusqu'à ce que la colonne fût passée et que Conrad se remît en marche. Un jour vint où eut lieu une bataille plus violente qu'aucune de celles auxquelles Pierrot avait déjà été mêlé. Les Allemands avaient disséminé leurs forces jusqu'à ce qu'ils fussent très près des forts d'Anvers, et pour les refouler, il fallait engager une action en nombre. Beaucoup de soldats furent hâtivement requis vers le front, la cavalerie, l'infanterie en rang serré et l'artillerie montée. Quand l'ordre atteignit les carabiniers, la batterie des mitrailleuses était prête, avec les chiens attendant dans leurs harnais, et ils partirent en trottant vers la route. Après qu'ils eurent parcouru environ 1,5 km, un officier arriva au galop et les envoya à gauche de la route, autour d'un petit bois dans lequel se trouvait un bataillon d'infanterie en action. Les coups de fusil faisaient un bruit incessant. De temps en temps, des shrapnels passaient en sifflant dans l'air et des bombes faisaient explosion dans la terre molle ou parmi les arbres. Les hommes exhortaient leurs chiens à de plus grands efforts. Ceux-ci labouraient le terrain irrégulier en tirant leurs mitrailleuses et leurs caissons, descendant et escaladant les ravins à travers la broussaille à une vitesse folle. Comme ils franchissaient la bordure du bois, ils découvrirent en face d'eux une colonne d'Allemands, avançant lentement en contournant le flanc des Belges. Les carabiniers vivement se déployèrent, puis se jetèrent à plat ventre, en s'abritant derrière les buissons ou les monticules qu'ils trouvaient, et ouvrirent le feu. Mais les hommes chargés des batteries ne purent point se cacher. Ils durent actionner leurs mitrailleuses et courir leurs risques. On n'eut pas le temps de dételer les chiens. Aussi furent-ils simplement retournés pour laisser accomplir derrière eux le tumulte de la bataille pendant que leurs mitrailleuses grondaient à leur côté. C'était très dur à soutenir, et plusieurs d'entre eux auraient pu s'enfuir si ce n'était qu'une demi-douzaine d'hommes avaient été requis pour retenir les chiens solidement par la tête en se tenant accroupis auprès d'eux. Des balles se mirent à siffler autour de leurs oreilles et faire « plouf, plouf » dans le sol, tout près d'eux. De temps à autre, un homme tombait silencieusement ou en poussant un cri perçant. Et en face, à droite, Pierrot entendit un chien qui lançait des hurlements d'angoisse. Derrière lui, Conrad Hortz grommelait et soufflait entre les dents pendant qu'il faisait fonctionner désespérément sa mitrailleuse. Brusquement, un des hommes qui se trouvait à la tête des chiens porta la main à sa gorge, articula un gémissement bruyant et tomba dans l'herbe. Et deux des chiens se sauvèrent, affolés, leurs canons bondissant derrière eux. D'autres chiens sautaient et grognaient, et tout ce que les hommes purent faire était d'empêcher une débandade. Pierrot fut saisi de panique et du désir de fuir rapidement. Mais Conrad se montra pour un moment, leur criant « Tranquille, les chiens, tranquille !» Vieux Jeff, impassible, fit entendre un grognement intérieur, et Pierrot se tint quoi. Le feu des mitrailleuses avait arrêté l'assaut des Allemands, et les carabiniers reprirent leur marche en avant, de monticule en monticule, en continuant leur feu. À la fin, les Allemands se retirèrent et le gros de la bataille se déplaça. Les carabiniers furent rappelés et rentrèrent avec leur batterie en s'abritant derrière les arbres pour reprendre haleine. Précisément, comme ils tournaient, une balle rapide atteint un jeune chien à robe tachetée dont Pierrot avait fait la connaissance. Il trottait tout près de son compagnon et de la mitrailleuse, et avec un cri de douleur et d'effroi, il fit un bond et tomba aux pieds de Pierrot, le sang rouge s'échappant de son épaule. Stupéfait de terreur, Pierrot s'arrêta net et flaira son camarade tombé. Alors Conrad l'obligea à avancer, tandis que l'homme dégageait le chien mort en coupant ses traits. Ce jour-là, pour les carabiniers, la bataille était terminée. Mais Pierrot avait vu la mort de près, et il commençait à comprendre. Chapitre 4. Vint enfin le jour tragique de l'évacuation d'Anvers, quand le roi des Belges et sa brave armée vaincue se retirèrent tristement vers l'ouest, quittant leur beau pays dès lors sans protection. Les carabiniers furent envoyés en avant avec leurs mitrailleuses, laissant à l'artillerie montée, aux autos blindés et à la cavalerie le soin de couvrir l'armée en retraite. Des troupes partirent en chemin de fer par Gand, Bruges et Ostende, mais la majorité de l'armée, y compris les carabiniers, fut obligée de voyager à pied. C'était une marche forcée, longue et ardue. 130 kilomètres couverts en 3 jours, parfois en longeant les routes, d'autres fois à travers champs, mais toujours en se pressant au point que les chiens sentaient comme leurs jambes fléchir et leurs poitrines éclater. Un jour, ils débouchèrent au bord de la mer, et Pierrot eut souhaité d'y séjourner et de contempler cette nouvelle merveille. Mais il paraissait toujours y avoir une raison de se presser, et Conrad ne voulut point qu'il se reposât. Ils laissèrent derrière eux les jolies fermes et la contrée boisée, et arrivèrent enfin dans la région des canaux, des digues et des dunes de sable, où de bizarres petits saules, taillés, poussaient au bord des routes et sur les berges des ruisseaux. Des pluies fréquentes et de la boue rendaient aussi la remorque des canons doublement laborieuse. Enfin, fatigués et mécontents, ils arrivèrent à une halte où on permit aux chiens une brève sieste, pendant que les rangs furent reformés et que les hommes établissaient leur camp et creusaient des tranchées. C'est ici que Pierrot eut l'occasion de voir des soldats en kaki qui chantaient des refrains singuliers et parlaient une langue étrangère. Ils paraissaient très cordiaux. Un jour, quelques-uns d'entre eux vinrent visiter les carabiniers, et on se serra beaucoup les mains, on fuma abondamment, mais on parla peu. Ils semblaient particulièrement s'intéresser aux chiens, et l'un d'eux, une sorte de gaillard trapu, à la face très rouge et à la figure souriante, les enjamba, et, comme s'il en avait attendu l'occasion pendant des semaines, il caressa le dos des chiens en tous sens et leur frotta les oreilles. Jeff se montra froidement défiant, tandis que Pierrot agita violemment sa queue hirsute et planta ses 2 petites pattes boueuses sur la large poitrine du soldat. Sur ce, il donna à Pierrot une rude étreinte et une tape sur la tête, puis s'en fut rapidement. Ceci fit énormément de bien à Pierrot, car quoique Conrad Hortz fût un bon maître, il ne paraissait pas avoir le temps de prodiguer des caresses, tandis que dans le cœur de Pierrot, il y avait un insatiable besoin d'affection pour les hommes. Quand l'homme en kaki fut parti, Pierrot le suivit des yeux et pleura. Puis il se coucha, se plaignit un peu, et une grande sensation de mal du pays l'envahit de nouveau. Si un chien ne peut pas réellement raisonner, à peine peut-il se souvenir, et Pierrot sentit qu'il avait perdu ce qu'il y a de meilleur au monde, mais ne parvint pas à en comprendre la raison. Tout lui repassa dans l'esprit. La paisible métairie avec Médard et les vaches, Mère Marie avec sa figure fraîche et ses cruches luisantes, la ville affairée avec ses folâtres vendeuses de journaux, le tendre vieux grand-père et la joyeuse petite Lisa, les mains mignonnes et les voix douces et la joie d'être choyé. Mais Pierrot n'était qu'un chien, et la guerre, c'est la guerre. On ne peut se préoccuper de ces choses futiles quand la destinée de la patrie est en jeu. Bientôt la bataille reprit. Seulement il n'y avait plus d'impétueux élan sur les grandes routes, ni à travers les champs verts, mais on pataugeait dans la boue, escaladant les tranchées en de brèves et exténuantes charges et de hâtives retraites. C'étaient des batailles à courte distance et presque incessantes. Il y avait un continuel grondement de gros canons et le fracas énervant des obus qui éclataient à bout portant. Les chiens étaient rarement dételés, se couchaient par intermittence où ils pouvaient et souffraient souvent de la faim. Au cours d'une des nombreuses rencontres, survint parmi les dunes un triste événement. Conrad Hortz tomba dans le sable humide et ne se releva plus. On commanda la retraite, mais Conrad ne répondait point. Jette et Pierrot regardaient avec perplexité les autres hommes et les chiens se démener en reculant vers les monticules de sable. Alors surgirent des cris et du tumulte derrière eux, ainsi que des coups de feu hostiles. En se retournant, ils virent venir à eux les hommes en gris qui se précipitaient des dunes. Mus autant par la crainte que par le sentiment instinctif qu'ils avaient de retourner vers leurs amis, les deux chiens belges se précipitèrent en un galop fou derrière les carabiniers en retraite, laissant où il était tombé le corps inerte de leur maître. Par miracle, ils atteignirent en sûreté les tranchées, quoiqu'une pluie de balles tombait autour d'eux. Là, un homme, appelé André Wins, se chargea d'eux et de leur mitrailleuse. Et maintenant, une nouvelle infortune atteignit Jeff et Pierrot. Car André Wins était un homme brutal, qui connaissait peu la manière de traiter les chiens. Il les battait, les bousculait et leur donnait des coups de pied, non par méchanceté, mais à cause de la fausse idée que pareil traitement était nécessaire pour obtenir davantage d'eux. Au début, Pierrot était terrifié et furieux et témoignait son ressentiment parce qu'il n'avait jamais été battu. Mais il apprit bientôt l'inanité de la rébellion et se soumit de bonne grâce. Il attendit ardemment le retour de Conrad Hortz, mais Conrad ne revint jamais. Quant à Jeff, il subit tout en silence. Cependant, il était aisé de voir qu'il n'avait pas d'affection pour André. Quand arrivèrent les froids de l'hiver, il y eut plus de misère pour les hommes et les chiens. L'eau était gelée dans le fond des tranchées, et les nuits étaient froides et humides. Heureusement pour Pierrot, il avait été élevé à l'extérieur et habitué à la pluie, à la gelée et au verglas, et il avait un rude et épais pelage. Mais cela ne l'empêchait pas d'avoir, après ses marches dans l'eau, les pattes gelées et blessées par la boue durcie des mares congelées. Des particules de glace se formaient dans ses pattes et le faisaient cruellement souffrir. Certains hommes mettaient des bandages à leurs chiens, mais André Wins ne paraissait pas avoir le temps de faire cela. Il ne les battait que plus fort quand il partait les membres raidis ou qu'il montrait des marques de lassitude au retour. La nuit, les hommes s'enroulaient dans des couvertures et entretenaient des petits feux quand ils pouvaient trouver du combustible, mais il n'y avait jamais de feu ni de couverture pour les chiens. Si les empereurs peuvent occasionner autant de souffrances aux hommes, il y a peu de chances pour qu'ils se soucient des membres meurtris et des pattes saignantes de grelottantes bêtes muettes. Les jours et les semaines passèrent, et quelques-uns des chiens moururent de pneumonie, ou, affaiblis par la faim et les privations, durent être abattus. Pierrot, devenant de plus en plus maigre et décharné, fut bientôt à bout de force. Il était presque insensible aux coups d'André, et son esprit était devenu si borné qu'il travaillait machinalement et sans initiative. Les jours heureux sur la route de Waterloo lui apparaissaient maintenant si confus et imaginaires qu'il y songeait rarement. Seulement, au fond de son cerveau, il y avait toujours une douloureuse attente sans espoir. Un matin de la mi-hiver, au lever du jour, Pierrot fut éveillé d'un sommeil sans repos par un grand bruit et du tumulte tout autour de lui. Lui et Jeff avaient dormi, débarrassés de leur harnais, au-dessous de leur canon, dans un petit creux au bord des tranchées, couchés l'un près de l'autre pour se réchauffer. Dans la nuit, une neige légère était tombée et les avait en partie recouverts. Pierrot se dressa sur ses pattes, s'étira, se secoua avec lassitude et considéra avec stupéfaction la grande étendue blanche. Au-delà des tranchées, à quelques centaines de mètres, il put voir les casques d'une armée d'Allemands s'avançant rapidement en rang serré. Les soldats belges se pressaient vers l'escarpement à la rencontre de l'attaque et déjà leurs fusils parlaient, tandis que les balles allemandes creusaient des minces sillons dans la neige ou se perdaient dans le talus. Déjà un ou deux des chiens qui se trouvaient dans des endroits exposés hurlaient de douleur ou tombaient raides sur le sol, et de temps en temps, un des carabiniers s'affaissait dans le fond de la tranchée. Les hommes qui avaient charge des petites batteries se précipitaient vers leurs mitrailleuses et quelques-uns des chiens furent harnachés à la hâte. Bientôt, Pierrot vit André Wins arriver avec peine vers eux, les bras pleins de munitions. Il les avait presque atteints quand il s'abattit en avant sur la figure et roula du talus. Alors vinrent les Allemands, par centaines et milliers, non avec enthousiasme, mais se pressant férocement et remplissant les vides à mesure que leurs camarades tombaient. Il y eut un ordre bref, et les Allemands, baïonnettes au canon, se précipitèrent à l'assaut de la tranchée. Alors ce fut une effrayante confusion d'hommes qui luttaient. Ils remplirent la tranchée, se battant désespérément, et Belges et Allemands tombaient ensemble, mourant soudainement ou dans de terribles agonies. Les Belges se battirent obstinément, mais pied à pied, les survivants furent repoussés, et les Allemands se répandirent dans les tranchées, piétinant les cadavres des leurs ainsi que ceux des ennemis, et franchirent l'autre côté du talus. Un ou deux des carabiniers avaient réussi à mettre leurs mitrailleuses en action, mais ils furent bientôt débordés, et les chiens harnachés furent vivement passés à la baïonnette pour les empêcher de s'enfuir avec les mitrailleuses. Certains des autres chiens se sauvèrent, et peut-être quelques-uns échappèrent, mais il y avait peu de chance pour eux. Pierrot et Jeff se tenaient dans l'expectative. L'idée de la fuite ne leur étant pas venue. Des hommes se traînant passaient devant eux, mais ils restaient étourdis et terrifiés. Alors, une grande brute d'homme, la face tordue par le délire belliqueux qui parfois change un homme en un démon, arriva en sacrant et en jurant sur le haut du talus, et, trouvant les chiens dans son chemin, passa sa baïonnette par cruauté au travers du cœur du pauvre Jeff. Pierrot vit choir son compagnon d'attelage, sans un cri. L'Allemand mit le pied sur le corps de l'animal, et en tira la baïonnette avec effort. Un flot de sang la suivit et fit une mare rouge dans la neige. Une rage insensée saisit Pierrot, et avec ce qui lui restait de son ancienne force agile, il sauta à la gorge de l'homme et enfonça ses crocs dans la chair. Le soldat laissa tomber son fusil, et saisissant Pierrot dans ses mains solides, essaya de l'étrangler et l'obligea ainsi à lâcher prise. Mais le chien était fou, aveuglé par la rage et insensible à la douleur. Il sentit la déchirure des muscles du cou de l'homme entre ses mâchoires et goûta le sang chaud. Alors l'étreinte des mains du soldat se relâcha et il tomba en arrière. Pierrot tomba avec lui, reprenant profondément haleine après avoir presque étouffé. Mais l'homme gisait immobile, ne se débattant pas. Et Pierrot se dégagea et se mit debout, en chancelant. La bataille qui faisait rage autour de lui ne fit aucune impression sur ses sens étourdis. Mais soudain, une autre forme grise apparut devant lui. Une lourde botte l'attrapa sous la gueule et l'envoya s'étendre plus loin. Alors la détonation d'un fusil se fit entendre bruyamment à ses oreilles, et il sentit une brûlante et terrible douleur dans sa cuisse de derrière. Et puis, ce fut l'obscurité.